Dans Bereshit, toujours, je crois. Et nous en sommes au chapitre Vav, au verset. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Verset Chet. Venoach. Chapitre Vav, verset Chet. Venoach. Chapitre Vav, verset Chet. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est la fin de quelque chose ou pas? Ben, le verset, c'est Venoach. Ça veut dire que Noach, lui aussi, devait être exterminé par le déluge. N'est-ce pas? C'est-à-dire que... Attendez une seconde. Absolument que je me débarrasse de certaines enveloppes. Ça veut dire que il y a une situation possible où l'humanité tout entière est coupable. Comme elle est coupable, elle est condamnée à l'extermination. C'est-à-dire, créer le monde, créer l'humanité est devenu superflu et même nocif. Donc, si dans le verset Zayin, Dieu dit « je vais détruire tout le monde », dans le verset Chet, il rajoute encore quelqu'un, Venoach, ainsi que Noach. Et après on nous dit, non, Venoach matzachen bene Hachem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc il y a contradiction entre le fait qu'il mérite la destruction et le fait qu'il ait trouvé grâce. Le terme de grâce vient en hébreu « hen » est à rapprocher du mot « chinam » qui veut dire « gratuit » et du mot « chanina » qui veut dire « une grâce ». Dans deux sens du terme, quand on dit quelque chose qu'il trouve grâce aux yeux de quelqu'un, ça veut dire qu'on considère qu'il est beau, même s'il n'est pas beau, et tandis que « chanina » veut dire « une grâce accordée après une condamnation ». Donc, c'est pas très sympathique pour Noach. Or, si on s'en tient à ce que dit le verset, ça veut dire que Noach n'est pas un tzaddik. Cela semble entrer en contradiction flagrante avec le verset Tet. Vous êtes invité à regarder le verset Tet. Il n'y a pas de verset Tet, non. Bon. Et les Toledot Noach, voici les engendrements de Noach. Noach est tzaddik. Noach était un homme juste. Donc, c'est un tzaddik. Donc, peu importe. Le terme tzaddik est employé par la Torah. Tamim, haya, bedorotav. Il était parfait dans ses générations. Et ta Elohim, italer Noach. C'est après Elohim que Noach cheminait. Donc, il y a contradiction entre le verset Chet qui nous dit que Noach n'est pas un tzaddik et le verset Tet qui nous dit qu'il était un tzaddik. Est-ce que vous avez compris que ça se contredit? Voilà. Bon. Alors, oui.
Pourquoi dans le Chet, on dit que c'est pas un tzaddik? On pense que c'est pas un tzaddik parce qu'il a trouvé grâce, genre à la base, il était pas
bon. Grâce, ça veut dire qu'il mérite la condamnation. Il est condamné. Mais malgré tout, il a été gracié. Tandis que dans le verset Tet, on te dit il était tzaddik.
Peut-être il y avait tu vois,
Peut-être, je sais pas. En tout cas, les deux versets disent le contraire l'un de l'autre. Alors, il y a trois manières d'aborder ce problème. Celle de la critique biblique, celle des chrétiens, et la bonne, c'est la nôtre. Les critiques bibliques vous diront, bon, ce sont deux récits différents, deux traditions différentes à propos de Noach, qui ont été mélangés par un rédacteur en chef qui n'a pas fait attention. Ça, c'est la vision. C'est-à-dire, quand il y a un texte complexe, ce que fait la critique biblique, elle dit, ben, il n'y a pas de texte complexe, puisqu'en fait, ce sont deux textes. D'accord? Bon. Les chrétiens, quand ils lisent ce texte, disent, ça prouve qu'être tzaddik ne sert à rien s'il n'y a pas la grâce. C'est-à-dire, comment? Les jésuites, les jansénistes, enfin à peu près tout le monde. C'est-à-dire que ce que disent les chrétiens dans l'ensemble, c'est que l'homme est coupable dans son être. Pourquoi est-ce qu'il est coupable dans son être? À cause du péché originel. Ce qui fait que tout homme, dès le départ, le plus grand des tzadikim, doit aller en enfer. À moins qu'il n'ait la grâce. D'accord? Ça, c'est l'opinion, donc, des chrétiens. Et voilà, vous avez ici un verset qui va dans leur sens. On nous dit qu'il est tzaddik et pourtant qu'il avait besoin de la grâce.
La grâce était condamnée par le péché originel.
Par le péché originel, probablement. Ou en tout cas, il faisait partie des péchés de sa génération. Mais bien que tzaddik, dans sa génération, il avait quand même besoin de la grâce. Ça, c'est ce que disent les chrétiens. Ils se trompent. Parce qu'ils ne savent pas lire un verset de la Torah. Et pourquoi ils ne lisent pas bien un verset de la Torah? Parce qu'ils ne le lisent pas en hébreu. Alors maintenant, essayons de voir un peu plus. Aux yeux de qui, d'après le texte, Noir a-t-il trouvé grâce?
Hachem.
Hachem, d'où est-ce que vous le savez?
Ben,
Noir, Matzachem ben Hachem. Très bien. Et quand on dit qu'il est tzaddik, c'est tzaddik selon qui?
La nation.
Regardez le verset. Hein?
À Elohim.
C'est-à-dire que selon les critères de Elohim, il est tzaddik, selon les critères de Hachem, il a besoin de la grâce. Alors, ça devient beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe et même compliqué. D'accord? C'est-à-dire que on nous dit il est tzaddik selon Elohim, mais il n'est pas tzaddik selon Hachem. Maintenant, j'aimerais comprendre. Quand il y a une catastrophe naturelle, qui est sauvé? On a l'habitude de penser le tzaddik. Le tzaddik est sauvé. Mais en vérité, c'est celui qui sait nager ou qui a une bouée. C'est lui qui est sauvé. C'est pas le tzaddik. C'est-à-dire, nous avons une exigence naturelle que le tzaddik soit sauvé, mais en vérité, dans la réalité, pardon, dans la réalité, on voit que le tzaddik n'est pas forcément sauvé. Ça, c'est selon les lois de la nature, qui sont les lois de quel Dieu?
Elohim.
Puisque, au début de la Torah, on nous dit, Bereshit bara Elohim. Donc, Elohim est celui qui a créé la nature. Or, la nature, elle a ses lois. D'ailleurs, regardez dans le verset Vav, Yud Gimel, dans le chapitre Vav, pardon, verset Yud Gimel. Vayomer Elohim le Noar, Ketz Kol Basar Balefanaï. Chapitre Vav, verset Yud Gimel. Ouais. Tu y es ou pas? Non, tu n'y es pas. Voilà, c'est très bien, d'accord. Vayomer Elohim le Noar, Ketz Kol Basar Balefanaï. Elohim dit à Noach, la fin de toute chair est venue devant moi. Que dit Rashi? Ketz kol basar. Regardez Rashi sur le verset Yud Gimel. Kol makom sheata motzez nut, tout endroit où tu trouves de la débauche, andra la musia ba'ala olam, la catastrophe vient dans le monde, veoreget tovim veraim, et tue les bons et les mauvais. Donc, si quelqu'un est tzaddik selon les exigences d'Elohim, il n'y a aucune raison que quand vient le déluge, il soit sauvé. D'accord? Quoi? Toute chair. Toute chair, y compris les bons et les mauvais. J'ai lu Rashi. Est-ce que tu as lu Rashi? Oui. Donc Rashi nous dit, Oreget tovim veraim, la catastrophe va tuer les bons et les mauvais. Donc même si Noach est bon, étant donné qu'il est sous l'empire des exigences d'Elohim, il doit être zigouillé comme tout le monde. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, pourquoi?
Il n'a pas été
zigouillé. Ah, ça c'est la bonne question. Ça c'est la bonne question. Mais en tout cas, s'il était tzaddik selon Hachem, alors il aurait été sauvé par miracle. Parce que Hachem, c'est celui qui va au-delà de la nature, qui fait des miracles. Donc si quelqu'un est fidèle aux exigences d'Hachem, c'est normal qu'il soit sauvé. D'accord ? Or, Noach n'était pas fidèle aux exigences d'Hachem. Regardez une petite seconde dans le verset Kafbet. Regardez dans le verset Kafbet. Vayas Noach, que chol asher tziva oto Elohim ken asa. Et Noach a fait tout ce que Elohim lui avait dit de faire, ainsi a-t-il fait. Donc il est fidèle à Elohim. Mais c'est insuffisant. Il va le sauver. Problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va le sauver quand même? D'accord? Maintenant, c'est quoi être tzaddik selon Hachem et tzaddik selon Elohim? Regardez une petite seconde dans le chapitre Vav au verset Tet. Chapitre Vav au verset Tet. Oui, quoi?
C'est bizarre un peu, je trouve. Enfin, on dirait que là, carrément, on fait une séparation comme si on avait plusieurs dieux.
C'est comme s'il y avait plusieurs dieux, effectivement.
Ça pourrait conduire à l'idolâtrie.
Oui, ça peut conduire au dualisme, effectivement. D'accord ? Maintenant, il y a une innovation extraordinaire qui nous a été révélée par les prophètes, qui est que Hachem, ou à Elohim. Que Hachem, il est aussi Elohim. D'accord ? Que tous les Elohim dépendent d'Hachem. D'accord ? Hein ? Là, on pourrait comprendre le contraire, effectivement. Mais le problème, c'est que pour comprendre un texte, on est obligé de lire ce que dit le texte. Ça pose des problèmes, d'accord, mais le texte dit ça. D'accord ? Bon. Regardez une petite seconde dans le verset Tet. Et ha-Elohim ithaller Noach. Avec Elohim cheminait Noach. Qui c'est qui marche en premier alors ? C'est Elohim. Et Noach est derrière lui. D'accord ? Regardez les dernières lettres des mots Ha-Elohim Ithaler Noach. La dernière lettre du mot Ha-Elohim, c'est Mem. La dernière lettre du mot Ithaler et la dernière lettre du mot Noach, ce sont les lettres du mot Chacham. Chacham, mais c'est un Chacham dans l'ordre inverse. C'est-à-dire ce qu'on appelle Chacham Achar Maase. C'est le sage après coup. Et c'est en fin de mot, pas en début de mot. C'est-à-dire il est incapable de prévoir l'avenir, mais il est fidèle à l'exigence. D'accord ? Mais il vient après. Quoi ?
On parle de Noach.
Oui, on parle de Noach. Oui. Maintenant, gardez la page, mais regardez une petite seconde dans le chapitre Yud-Zayin. Je sais que c'est loin. Yud-Zayin au verset Aleph. Au chapitre Yud-Zayin. Chapitre Yud-Zayin au verset Aleph. Exactement. Chapitre Yud Zayin au verset Aleph. Alors, on n'attend que toi. Chapitre Yud Zayin au verset Aleph. Vayehi Avram ben Tishim Shana Vatesha Shanim. Avram, 99 ans. Vayera Hashem el Avram. Et Hashem apparu à Avram. Ah ah, c'est Hachem qui lui parle. Vayomer Elav, Ani El Shaddai, il lui a dit, je suis le Dieu de la fécondité. Ithallech lefanai, chemine devant moi. Veillez ta mime et sois entier. C'est-à-dire, qui c'est qui doit marcher en premier ? Avram et Hachem derrière lui. C'est-à-dire, non, vous avez ici donc deux différences. D'une part, c'est Avram qui marche en premier alors que Noach marche après. Et c'est devant Hachem, tandis que chez Noach, c'est Elohim. Oui ?
C'est devant Hachem ou devant Hachem ?
Très bonne question. Quand nous arriverons à l'étude de ce texte, nous approfondirons la chose. D'accord ? Mais c'est assez compliqué là-bas aussi. D'accord, oui ?
Qu'est-ce qu'on va retenir de toute façon là, Aleph ? Qu'est-ce qu'on va retenir pour le...
Ça veut dire que celui qui est fidèle à Hachem également marche devant. C'est-à-dire qu'il voit les choses avant. Il prend les devants, comme on dit. Ce qui fait que lorsque, par exemple, Dieu dit à Abraham, « Tu sais, je vais détruire Sodome. » Qu'est-ce que dit Abraham ? Pas question. D'accord ? Il s'oppose. Tandis que Dieu dit à Noach, ça je vous raconte comme le Zohar le présente, Dieu vient voir Noach et lui dit, « Tu sais, Noach, je vais détruire l'humanité. » Réponse de Noach, d'après le Zohar, « Et moi alors ?»
Ah, il y a le clair, il y a le patron.
Il s'intéresse à lui-même. Alors Dieu lui dit, puisque c'est comme ça, fais-toi une boîte. L'arche, Teva. D'accord ? Peut-être. En tout cas, il aurait pu essayer. Il aurait pu en refuser de rentrer dans l'arche. Par exemple. Maintenant, il y a un petit problème. Au temps de Noé, le monde allait mal. Au temps d'Abraham, le monde allait mal aussi. Peut-être un peu moins mal, mais ça allait mal. Qu'est-ce que fait Abraham pour réparer la situation ?
Il va voir chacun des individus.
Et qu'est-ce qu'il lui dit ?
Il y a un Dieu.
C'est-à-dire, il invoque le nom de Dieu. D'accord ? Abraham. Une seconde. Le nom de Dieu, c'est un mot, n'est-ce pas ? Yudkevavke. N'est-ce pas ? Comment vous dites un mot en hébreu ? Mila ou bien Teva. C'est-à-dire, par exemple, des initiales, Raché, Tevot. D'accord ? Donc, Abraham comprend qu'il doit invoquer un nom et Noach se met en boîte. D'accord ? Maintenant, regardez une petite seconde pour ce qui est des dimensions de la boîte. C'est intéressant. Regardez au verset, je reviens ici au chapitre Vav, au verset Tête Vav. Chapitre Vav, verset Tête Vav. On perd du temps. Chapitre Vav, verset Tête Vav. Vous êtes d'une rapidité extraordinaire. Impressionnant. Regardez ce qu'il dit de la Teva. Vézé Asherta Aseota. Et voilà comment tu vas la faire. Shlosh Meot Ama Orecha Teva. 300 coudées, la longueur de la Teva. Chamishim Ama Rochba. 50 coudées de large. Ushloshim Ama Komata. Et 30 coudées de haut. 300, 50, 30. Yud, c'est combien ? Et He, c'est combien ? Yud multiplié par He, 50. Vav, c'est combien ? Vav multiplié par He, 30. Yud multiplié par He, multiplié par Vav, Yud fois He fois Vav, 300. Donc vous avez les dimensions de la Teva, Yudke, et puis après Vavke, après Yudke Vav. Donc ce sont les dimensions de la Teva, c'est-à-dire qu'il vient se protéger au sein du nom de Dieu. Il y a à ce propos un verset dans le livre de Michelet, les Proverbes. Migdal Oz Shem Hashem. C'est une forteresse puissante que le nom de Dieu. Boyarutz Tzadik Venisgav, dans laquelle le Tzadik s'introduit pour être sauvé. Bah ouais, donc ça correspond tout à fait à Noir. D'accord ? C'est dans Michelet. Ah, le chapitre et le verset. Je ne sais pas. À ma grande honte, d'ailleurs. Je devrais savoir. Mais enfin, bon. Oui.
Est-ce que vous répétez pas, si ça vous dérange pas ?
Oui, bien sûr. Ça me dérange, mais je vais le faire quand même. Migdal Oz Shem Hashem. C'est une forteresse puissante que le nom de Dieu. Bo Yarut Tzaddik Venisgav. Dans laquelle le Tzaddik va s'introduire pour se sauver. C'est-à-dire que le tzaddik est protégé par le Shem Hashem. D'accord ? Regardez une petite seconde dans le chapitre Zayin, au verset Tet Zayin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et sauvé, Venisgav. Regardez dans le chapitre Zayin, au verset Tet Zayin. Vous avez trouvé ? Ça traîne. Chapitre Zayin, verset Tet Zayin. Ve'abaim zachar unkeva mikol basar ba'u. Ceux qui sont venus étaient mâles et femelles de toute chair. Kasher tziva oto Elohim, comme lui avait ordonné Elohim. Va'isgor Hashem ba'ado. Et Hashem a fermé autour de lui. Ça veut dire qu'il accomplit les commandements d'Elohim, mais c'est Hashem qui va le protéger. À nouveau, ça revient à notre problème. Pourquoi est-ce qu'il est sauvé ? Oui ?
Il y a une contradiction avec Rachid.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il dit Rachid ou ça ?
Le mot chair, toute chair. Rachid dit que tous les êtres de chair, ils vont s'exterminer, qu'ils soient bons ou mauvais.
Et alors ?
Et là, il dit que ceux qui vont venir à Teva, ça va être des êtres de chair.
Ah, d'accord, effectivement. Donc, il y a un problème. D'accord ? Effectivement. C'est le même problème que pour Noir. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont sauvés alors qu'on a annoncé que tous les animaux allaient être détruits. Il y a un homme qui est sauvé alors qu'il ne méritait pas d'être sauvé. D'accord ? Bon problème. D'accord. Hein? Oui. C'est-à-dire, il a sauvé les animaux parce qu'il a sauvé Noir. D'accord. Il a donné ça gratos. D'accord. Bon. Alors, donc, on n'a toujours pas réglé le problème. Regardez à nouveau dans le chapitre Vav, au verset Yutret. Oui, tu sais très bien que tu peux.
Quand vous étudiez, vous faites vraiment ça, non?
Non, j'invente.
Comment vous avez fait pour venir et savoir que comme ça?
C'est pas une question qui a rapport au cours, c'est une question personnelle. Où est-ce que j'ai appris à lire la Torah? Chez mes maîtres, évidemment. On ne peut pas lire la Torah si on n'a pas de maître. Donc, maintenant, je reviens ici au chapitre Vav, au verset Yutret. Va Kimoti, simplement, ça nous apprend une chose importante. Quand on lit la Torah, il faut la prendre au sérieux et la lire lentement. D'accord? Chapitre Vav, verset Yutret. Va Kimoti et Beriti Itar, j'accomplirai mon alliance avec toi. Uvata et la Teva, tu entreras dans la boîte. Ça s'appelle une mise en boîte. Ata, uvanecha, toi et tes fils, veishtecha et ta femme, unchebanecha, itar et les femmes de tes enfants avec toi. Umikol achai, de tout ce qui est vivant, mikol basar, de tout être de chair, shenaim mikol tavi et la Teva le achayot itar. Tu amèneras deux de chaque dans la boîte pour épargner avec toi. Zachar unkeva yiyu. Ils seront mâles et femelles. Pourquoi mâles et femelles? La reproduction. C'est-à-dire le minimum pour une reproduction, c'est un mâle et une femelle. Et c'est exactement ça qu'il doit faire, n'est-ce pas? Me'aof limineu, minabema levina, etc. Donc tu prends deux à chaque fois. Verset kaf alef. Ve'ata, oui.
On a vu au début que c'est Noir qui a été entre guillemets grassé.
Oui. Parce que s'il est grassé, on a besoin du monde entier pour lui. C'est-à-dire, la Guémara dit comme ça. Quand quelqu'un fait Teshuvah, on lui pardonne à lui et au monde entier. Alors, est-ce qu'on lui pardonne à lui parce qu'il a fait Teshuvah, d'accord. Et au monde entier, pourquoi? Parce que si on l'a pardonné à lui, il a besoin du monde entier. Donc, on va sauver le monde entier parce qu'on l'a sauvé lui. Donc, hein? Non, le nécessaire seulement. Le nécessaire pour que le monde continue. D'accord? Quoi? C'est dans Yoma. Mais j'ai oublié où. Dans le dernier chapitre, dans la Guémara dans Yoma, vous vous mettez dans une situation extrêmement problématique. Vous vous rendez compte, vous découvrez que je ne sais pas la page. Oui.
Quoi? Vous avez dit le Yutret.
Oui.
C'est Elohim ou Hachem qui parle?
Ah, c'est Elohim. D'accord. Tout le dialogue ici, ça commence au verset Yud Gimel, Vayomer Elohim les Noirs. D'accord. C'est Elohim qui lui parle. Il lui dit, prends deux mâles femelles. Regardez au verset Kafalef, Ve'ata, Karlecha mikol ma'achal asher ye'achel. Et toi, tu vas prendre de toute chose qui se mange. Ve'asafta elecha, tu engrangeras chez toi. Ve'aya alecha ve'lahem le'ochla. Ça sera pour toi et pour eux à manger. Cette formulation est un peu méprisante. C'est-à-dire, il faut t'alimenter, toi et les animaux. D'accord? Disons par respect pour l'identité humaine, pour la personne mieux vous dire, bon, tu vas prendre pour toi ce qui se mange chez les hommes, et puis après tu prendras ce qui se mange pour les animaux. Mais là, dans le même sac. Vayas Noar, verset Kafbet, Kechol Asher Tziva Oto Elohim, Kenasa, et Noar a fait tout ce que Elohim lui avait dit de faire. Ainsi a-t-il fait. Bon, jusque là, vous avez compris. Maintenant, je vais vous amener un verset qui dit exactement le contraire de tout ce que nous avons dit depuis le début du cours. D'accord? On va tout mettre par terre maintenant. Regardez dans le chapitre Zayin au verset Aleph. Chapitre Zayin au verset Aleph. C'est juste après. Quoi?
Dans le passage Kraf Aleph.
Oui.
Lors de toi, tu prendras toi.
Oui.
Et après, pour tes animaux.
Oui.
Mais c'est quoi la formulation qu'elle dit?
Tout aliment qui se mange. Maintenant, je reviens ici au chapitre Zayin, au verset Aleph. Vayomer Hachem les Noirs. D'abord, c'est Hachem qui lui parle, brusquement. Boata vechol betra la teva. Entre toi et toute ta maison dans la teva. Pourquoi? qui otra raïti tzadik lefanaï, badorazé, parce que j'ai vu que tu es tzadik devant moi en cette génération. Donc il est tzadik, selon Hachem, et il marche devant, lefanaï. Hein? Ça contredit le premier verset, exactement. C'est exactement le contraire. D'accord? Mais non, c'est pas seulement ça. Regardez maintenant au verset bête. Nouvelle contradiction. Mikola behema teora tikar lecha shiva shiva ishve ishto. De chaque animal pur, brusquement on apprend qu'il y a des animaux purs et impurs, donc il y a ici une gradation morale, tu prendras 7 de chacun, homme et femme. C'est pas mâle et femelle, c'est homme et femme. Donc monsieur girafe et madame girafe sont invités à prendre place dans la teva. D'accord? Ou mina behema, cher loteora, et des animaux qui ne sont pas purs. Et, shenaim shve ishto, tu en prendras 2, homme et femme. C'est-à-dire que le style est tout à fait différent. D'abord, le chiffre n'est pas un chiffre de la nécessité de la reproduction, puisqu'il prend plus que 2, que les animaux sont considérés comme des humains, et que, il y a ici une dimension morale, pure et impure. Tout ça, c'est le style de Hachem, Yitzke Vavke. Ce qui fait que les critiques bibliques ont eu le beau jeu de dire, ben, vous voyez bien, il y a ici un auteur qui croit en Elohim, un autre qui croit en Hachem, et le rédacteur en chef les a mélangés. D'accord? Oui?
Mais on a l'impression que ça se répète, du coup, par rapport au...
Oui, mais, non seulement ça se répète, mais il dit le contraire. Oui, il se répète en se contradisant. D'accord? Ça veut donc dire qu'il y a, d'abord il s'est passé quelque chose. Regardez au verset Hé. Verset Hé. Vayas Noar, Kechol Asher Tzivahu Hachem. Et Noar a fait tout ce que Hachem lui avait dit. Alors on n'y comprend plus rien. D'accord? Surtout si vous revenez maintenant au verset qu'on a vu tout à l'heure, le verset Tet Zayin, dans le chapitre Zayin. D'accord? Les mâles et femelles sont venus à 2 comme Elohim avait ordonné. Effectivement, Elohim avait dit mâles et femelles, il avait dit 2. Mais Hachem a fermé autour de lui. Donc il y a ici ce qui prouve qu'il y a une conjugaison, c'est-à-dire que l'auteur, lui, il sait très bien que Hachem et Elohim, c'est le même Dieu, mais qu'il y a deux manières d'agir, celle d'Hachem et celle d'Elohim, également le comportement de Noir. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, si je reviens au chapitre Zayin, au verset Aleph, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui fait que brusquement Noir est déclaré tzadik. D'accord? Oui?
C'est une question rhétorique,
effectivement. Je pense que tu as réussi à comprendre. Et donc, la réponse... d'abord, ici, on doit voir un peu, dans la deuxième partie du verset, « Ki otra raïti »« Car toi, je t'ai vu. » C'est une formulation compliquée, emberlificotée. D'accord? « Ki otra raïti tzadik »« Car toi, je t'ai vu que tu es tzadik. » C'est pas comme ça qu'on parle. On devrait dire « Rentre dans la teva parce que tu es tzadik. » Qui atta tzadik les fanaï. D'accord? Le otra raïti, moi, je t'ai vu, toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Ça veut dire qu'en fait, Noar était Abraham. Mais un Abraham qui ne pouvait pas se manifester. Il était Abraham dans son être, mais à cause de sa génération, Badorazé, ça ne peut pas se manifester, il reste Noar. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, s'il avait été du temps d'Abraham, il aurait été beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'il était déjà grand comme Abraham, mais il n'avait pas sur qui agir. La génération ne permettait pas qu'il agisse à la manière d'Abraham. Donc il n'aurait pas pu la sauver. Il y a dans le Zohar tout un dialogue entre Moshe et Noar dans le ciel. Ils discutent entre eux. Et Moshe dit à Noar, moi j'ai sauvé ma génération. Toi pas. Réponse de Noar. Si ma génération n'avait pas été exterminée, tu n'aurais eu personne à sauver. Parce que le monde était tellement mauvais que il était impossible de le sauver. Donc c'est grâce au fait que je n'ai pas sauvé ma génération que l'humanité a évolué et toi, Moshe, tu as pu sauver ta génération. D'accord? C'est-à-dire que le Zohar est quand même sympathique pour Noar. Après qu'il ait raconté que Noar était égoïste. D'accord? Mais en fait, il y a eu quelque chose d'ambivalent. Maintenant, regardez une petite seconde. Comment est-ce que vous appelez le mot hébreu « otra »
Alef, taf.
Ah non. Non, on est le moderne.
Alef, taf, taf, taf.
On devrait écrire Aleph, Vav, Taf, Kaf Sofit. Comment c'est écrit chez nous ?
Sans le Vav.
Sans le Vav. C'est comme s'il fallait lire Itra, avec toi. Il y a avec toi un tzaddik qui marchera devant moi, qui est dans ton intériorité. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce. C'est-à-dire, alors que chez les chrétiens, la grâce, c'est une sorte de caprice des dieux, un fromage en fait. C'est-à-dire, cette idée que... Comment, vous savez ce que c'est ? Bon, c'est pas possible. Vous êtes imbibé de culture occidentale. Et mais, ce que dit le texte, c'est ce que les chrétiens disent, quand il y a la grâce, c'est d'un arbitraire. C'est-à-dire, Dieu, pour des raisons absolument... qui dépasse l'entendement humain, a sauvé tel homme. C'est la grâce. Tandis que pour la Torah, c'est pas une grâce, c'est pas de l'arbitraire, c'est un mérite. Mais c'est pas un mérite des actes, c'est un mérite de l'être. C'est-à-dire que vous avez trois manières de considérer la providence envers un homme. Soit par ses mérites, soit par le gratuit total, c'est ce que disent les chrétiens, soit par le mérite de l'être. C'est ce que la Torah dit de Noé. Donc il est sauvé, non pas à cause de ses actes, mais à cause de ce qu'il est. En hébreu, le mérite de l'être, ça se dit Segula. Hein? Non, alors, Segula veut dire aussi une capacité, mais ça veut dire également l'être intrinsèque, l'essence. D'accord ? Quand on dit « Ségoulat Israël », ça veut dire l'essence du peuple d'Israël qui fait que même quand nous sommes des Réchaïm, dans l'être, nous sommes des Tzadikim. D'accord ? Et donc, c'est ça la Ségoulat. Ce qui vous explique également pourquoi est-ce que les fruits d'Eret Israël sont meilleurs, parce qu'ils ont Ségoulat. Et donc, c'est très bon, voilà, la réaction à désirer est arrivée. Ouf, je vous remercie. Et donc, c'est ça qui fait que Noach est sauvé. Donc, Noach, Matzah, Chen, Bene Hashem, il a trouvé grâce. Parce que il était le tzaddik Lefanaï. Maintenant, définition du mot Chen en hébreu. Le mot Chen, qu'on traduit en général par grâce, ça veut dire en fait le mensonge. Vous connaissez dans Eshet Ra'il, Sheker Achen, Hevel Hayofi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle chen, c'est le mensonge. Ce qu'on appelle yofi, c'est la vanité, le souffle. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose trouve grâce, ça veut dire que bien que objectivement, il n'a pas les données pour être beau, mais on lui donne la même relation qu'on donne envers quelque chose de beau, parce qu'il y a quand même quelque chose là-bas. Comme on dit chez les critiques de l'art, on dit, il y a quand même quelque chose hein, dans votre tableau là. Il y a quelque chose, d'accord ? C'est une manière de dire j'en sais rien, mais de toute façon on m'a payé pour dire que ça valait cher. Et donc je dis il y a quelque chose, d'accord ? Ce je ne sais quoi, comme on dit en français. Ils adorent ça les Français. Il y a un je ne sais quoi, d'accord ? Ben c'est ça le chen. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui se réfère à quelque chose qui se cache. Oui.
Si le nom du Kavaké,
il avait vu en Noah.
Il avait vu Abraham. Est-ce que ça veut dire que depuis le début, il voyait déjà ça ou il y a eu un moment où il y a eu.
Ah, difficile à savoir. Il n'est pas impossible que ça a mis 120 ans à se manifester. C'est-à-dire, au moment d'entrer dans la Teva, il lui dit voilà, maintenant, tu es tzadik Lefanaï. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 120 ans ? Alors là, vous avez des midrashim assez intéressants qui nous racontent que pendant 120 ans, Noah a construit la Teva. Et donc les gens venaient lui demander mais qu'est-ce que tu fais ? Et il disait je fais un bateau. Ouais, ah bon ? Et pourquoi tu fais un bateau ? Je fais un bateau parce que Dieu m'a dit de faire un bateau pour me sauver. Te sauver ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien c'est très simple. Bon, je vois qu'aujourd'hui on peut pas travailler. Alors je vais vous dire, vous êtes des méchants. Dieu a décidé de vous détruire. Il a décidé de me sauver et donc je construis la Teva. C'est clair ? Bon. Ça va, on voulait pas te déranger. Bon, ça veut dire qu'en fait, la réalité va obliger Noach à engager un processus de teshuva qui va échouer. Il n'est pas sympathique. Mais il y a quand même quelque chose en lui qui a évolué. Donc quand vous avez dit teshuva, c'est pas vraiment la teshuva. Il a évolué dans le sens de faire teshuva aux autres. D'accord? Donc c'est possible que ça a pris du temps, effectivement. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'était connu à l'avance, évidemment. Oui.
Juste pour lire, quand oui. Le livre d'Itra,
oui. Avec toi, oui.
C'est quoi l'interprétation finale pour
ça? Ça veut dire qu'il y a avec toi un tzaddik qui sera digne d'être sauvé. Et donc, c'est la raison pour laquelle toi, tu es sauvé. Il y avait d'autres tzaddikim du temps de Noar qui ont été détruits, évidemment, qu'on avait vu Ketz Kol Bassar. Mais celui-là, il est sauvé parce qu'il est porteur en lui d'une identité qui va sauver l'humanité un jour. D'ailleurs, si on se réfère par exemple aux études des évolutionnistes, alors les évolutionnistes vous disent qu'il y a plusieurs millions ou milliards d'années, disons une centaine de millions d'années, c'était très violent sur la Terre. Il y avait des dinosaures qui étaient dévorés par des brontosaures et des ptérodactyles qui planaient pour s'emparer des proies, etc. C'était très dur. Il y avait de la violence sur la Terre. Et puis, lorsque sont arrivés les premiers hominidés, alors évidemment, ils se mangeaient les uns les autres, ils se tuaient les uns les autres. Mais finalement, tout ça a abouti à l'homme moral. Donc rétroactivement, ça a un sens. D'accord ? Ça fait partie des projets à l'échelle de millions d'années. D'accord ? Alors c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, Abraham justifie rétroactivement Noé. Noir va justifier rétroactivement les générations qui l'ont précédé. D'accord ? Ce qui fait que quand on fait un tikkun, c'est-à-dire on engage avec soi également tout ce qui nous a amené jusque-là. Toutes les générations antérieures, etc. Oui ?
Il n'est pas plus de son vivant que ça dit.
Abraham ? Est-ce qu'Abraham est appelé tzaddik? On sait rien. On sait rien. C'est vrai, c'est intéressant, il n'est jamais appelé tzaddik. Bon. Et donc, ça vous explique également le fait que dans le texte qui parle de Hachem, alors vous avez une description morale de la chose, 7, pur, impur, etc. Bon. Puisque c'est comme ça, on peut continuer. Là, je voudrais apprendre avec vous un peu de calendrier. Calendrier. Je voudrais apprendre le calendrier, oui, avec vous. Le calendrier du déluge. D'accord ? Regardez au chapitre Zayin, au verset Yud Alef. Bishnat shesh meot shana b'chaye Noar. Dans la 600e année de la vie de Noar. Donc, quel âge il a? 600 ans. Très bien. Bachodesh hasheni, lors du deuxième mois. C'est quoi le deuxième mois? Alors, ça dépend quand est-ce que c'est le premier. Ouais. Alors, le premier mois, c'est Bayar. Alors, si on va selon l'opinion de Rabbi Yehoshua, c'est Nissan. Si on va selon l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est Tishri. D'accord? D'accord. Nous allons... En fait, il y a ici tout un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vraiment, Rashi amène ça. Donc, je vous en fais grâce, je vous le dis à l'avance. Rashi dit que d'après Rabbi Yehoshua, donc le deuxième mois, c'est Yar, et que d'après Rabbi Eliezer, c'est Marcheshvan. D'accord? Soit Marcheshvan, soit Yar. Nous allons lire le texte selon l'opinion de Rabbi Eliezer pour gagner du temps. D'accord? Effectivement, c'est également ce que fait Rashi. Donc, lors du deuxième mois, c'est-à-dire en Marcheshvan, Beshiva Asar Yom Lachodesh, lors du 17e jour du mois, Bayom Azeh, en ce jour, Nivkeru, Kol Ma'yenot Eom Rabba, se sont ouvertes toutes les sources du grand abîme, Varubot Hashamaim Niftahu. Les cheminées du ciel se sont ouvertes. Ah bon. Donc, le 17 Cheshvan, ou 17 Mar Cheshvan, a commencé le déluge. C'est quoi les cheminées du ciel? Qu'est-ce qui vient du ciel, d'après vous? Selon le judaïsme. La pluie vient du ciel, la pluie vient des nuages. Mais qu'est-ce qui vient du ciel?
dans Bereshit, au tout début, on avait vu que c'était que quand Hachem l'a séparé en deux, il avait donné une partie au ciel.
Non, une partie qu'il appelait Rakia, et à laquelle il a donné le nom Shamaim, pas Hashamaim. Hashamaim, on avait vu que c'est plus, c'est pas mentionné dans l'œuvre. Hein?
Shamaim, c'est massif.
Shamaim, non, au contraire. Shamaim, c'est la théorie, tandis que Eretz, Hashamaim. Alors, mais qu'est-ce que nous savons qui vient de Hashamaim? La Torah. La Torah. Lors de la, du don de la Torah, il est dit en toutes lettres, Min Hashamaim, Dibarti Imachem. Je vous ai parlé depuis Hashamaim. Donc, les cheminées du ciel, Arubot Hashamaim, c'est quoi? C'est la conduite par laquelle passe la Torah. Qu'est-ce qui est venu? De l'eau. Vous connaissez ce que disent les Chachamim, En Maim et la Torah. Il n'y a pas d'autre eau que la Torah. Ce qui veut donc dire que le 17e jour de Mar Cheshvan, dans la 606e année de la vie de Noar, la Torah a été donnée. Regardez le verset juste après. Vaye à Geshem à la Haaretz. Et la pluie a été sur la terre. Arbaim yom ve arbaim laïla. 40 jours et 40 nuits. Ça vous dit quelque chose? Ça veut donc dire que la Torah a été donnée au temps de Noar, mais qu'elle est devenue de l'eau. C'est-à-dire que la génération avait la grandeur d'être pour recevoir la Torah, mais les actes étaient contraires. Donc ça a éliminé le monde. 40 jours, 40 nuits, flop, la Torah a détruit le monde. Oui.
Est-ce que c'est de l'eau en termes métaphoriques, c'est-à-dire est-ce que c'était vraiment de l'eau, ou bien est-ce que c'était en termes, c'était de l'eau... comme dans le langage courant, Kavanah, c'est rien. C'est...
Quoi, l'eau avec un Aleph? La Med Aleph, c'est non, ça? Pour dire non.
C'est de l'eau, c'est de l'eau, ça. Est-ce que c'est
non,
comme...
je pense que c'est de l'eau. Oui, de l'eau, H2O. Oui. D'ailleurs, c'était la morne pleine, water, l'eau. Water, c'est de l'eau. Et water, c'est... D'accord. D'ailleurs, on dit que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, après être rentré, il sortait, il faisait une prière, dans laquelle il demandait que Dieu n'entende pas la prière des voyageurs pour la pluie lorsque le monde en a besoin. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les voyageurs préfèrent qu'il n'y ait pas de pluie, mais le monde a besoin d'eau. D'accord? Comment c'est dit? Lotikanes efanecha tfilat ovre derachim, que ne rentre pas devant toi la prière des voyageurs, Benyan Ageshem à propos de la pluie, Besha Sheaolam, lorsque le monde, Tsarir l'eau. Ce qui veut dire qu'il parlait en français. Lorsque le monde a besoin de l'eau. D'accord? D'accord. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Est-ce que vous pouvez...
D'ailleurs, je suppose que de tout ce que vous rappellerez du cours, c'est essentiellement ces vannes-là. Oui?
Est-ce que vous pouvez dire ce que disent les Chachamim en hébreu sur la Torah et l'eau?
En Maim et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hoy kol tsame lechou la Maim. Vous qui avez soif, venez à l'eau. Oui.
Est-ce que ça veut dire que Noir s'est protégé de la Torah?
Ah, non, au contraire. Ça veut dire que Noir, lui, a reçu la Torah. Il est le seul à être resté vivant, donc il a pu la recevoir. Sous quelle forme? Les formes des sept lois des Béné Noirs, les sept lois noachides. Ça veut dire qu'il vit une expérience de réception de la Torah, lui. Et le reste du monde en est détruit. D'ailleurs, vous connaissez les Midrashim qui disent que lorsque Dieu a parlé au Sinaï, tout le peuple est mort. Leurs âmes sont sorties. Et que la Torah a exigé que Dieu les ressuscite. Et donc ils ont été ressuscités. Comment? Non, lui non.
C'est
exactement, la même chose, c'est le même principe, oui. Quoi?
Alors, si la Torah et l'eau, ça rapporte quoi? Quand vous dites moi l'eau, on n'a pas des connaissances
sur la Torah. Nous, comment est-ce que quoi?
Quand vous dites moi l'eau, si la Torah et l'eau, c'est bien.
Ah, quand on boit de l'eau, on a de la Torah, c'est vrai, mais de la Torah devenue eau. Tandis que, on préfère que l'eau devienne de la Torah. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, et que nous sommes dans un liquide, on apprend toute la Torah. Oui. C'est pour ça qu'au mikvé, c'est la même chose. On rentre dans l'eau. On revient à sa source. Oui.
Une question. Vous avez dit la phrase Elmaïm et la Torah.
Oui.
C'est où pour ça?
Chez les Chachamim, je crois. Je ne sais plus où c'est. Je sais. Voilà. Et, là, on ferme.
Quand vous dites que la Torah, en gros,
Ils ont reçu, mais ça l'a tué. C'est,
ouais.
C'est-à-dire que la Torah est destructive.
Oui, la Torah est destructive pour celui qui n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire, il est dangereux d'étudier la Torah si on n'a pas un minimum de moralité préalable. Oui.
Donc, en gros, on a dit que s'il y a eu un don de la Torah, mais que comme le monde il n'était pas apte, elle s'est changée en autre.
Oui.
Alors pourquoi il y a eu un don de la Torah si le monde n'était pas apte?
Parce qu'ils avaient la grandeur d'être. Ils étaient d'une grandeur d'être qui faisait que s'ils avaient été méritants, ils auraient reçu la Torah. C'est-à-dire pour recevoir la Torah, il faut avoir un certain réceptacle. Or, ils avaient ce réceptacle. Une grandeur d'âme. Oui, une grandeur de neshama. Alors, ça a été mal utilisé. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi est-ce que, lors de la génération où la Torah a été donnée, les enfants ont été jetés à l'eau et que finalement, il y en a un qui a été sauvé par une petite boîte. Ben oui. Et c'est, ça ressemble, non? Ouais, bon. Maintenant, ce qui se passe, ce qui m'intéresse, je suis dans le calendrier toujours, n'est-ce pas? Alors, regardons un peu maintenant au chapitre Zayin, au verset Kaf. Non, au verset Yud-Tet. Non. Ouf. Oui, au verset Kavdalet. Chapitre Zayin, au verset Kavdalet. Vaigberu hamaim al haaretz, chamishim umeat yom. L'eau a recouvert la terre pendant 150 jours. Ça fait beaucoup de jours. On avait commencé par 40, ça devient 150. Donc 150 et 40, ça vous fait 190, à moins qu'on compte les 150 à partir du premier jour. C'est pas très clair dans le texte, n'est-ce pas? Bon. Regardez maintenant au chapitre Chet, au verset Dalet. Chapitre Chet, au verset Dalet. Vatana Hateva, Bachodesh Hashivyai. Et la boîte se posa lors du septième mois, Beshiva Asaryom Lachodesh, le 17e jour du mois, Al-Hare Ararat, sur les monts Ararat. D'accord? Donc on est arrivé au septième mois. En supposant que le premier mois c'était Tishri, n'est-ce pas? Puisqu'on avait dit que le deuxième mois c'est Marcheshvan. C'est quoi le septième mois? Nissan, n'est-ce pas? Nissan. Regardez ce que dit Rashi. Vachodesh Hashivii. Que dit Rashi? Sivan. Ah bon? Comment? Vehu Shivii le Kislev. Il est le septième mois à partir de Kislev. Shebo Pasqua Geshamim, où ont cessé les pluies. C'est-à-dire, quand on dit 2, ça veut dire 2 à partir de Tishri, mais quand on dit 7, ça veut dire 7 à partir de Kislev. D'accord? C'est un peu bizarre. Et ben, c'est ce que dit Rashi. Sivan. D'accord? Hein? Alors, il dit, la Teva s'est posée au mois de Sivan, le 17 Sivan.
Selon Rashi,
d'accord. Mais comment? Très bizarre, c'est effectivement. Maintenant, passez au verset.
C'est un Sivan de combien de temps après le début?
C'est 7 mois après qu'ait cessé la pluie. Si je compte à partir de qui se lève.
La pluie, combien de temps après le début?
30 jours. Donc, si ça commençait le 17 Cheshvan, la pluie a cessé le 27 qui se lève. Donc 27 Kislev, c'est le mois. Le Kislev est le mois où a cessé la pluie. Je compte à partir de Kislev 7 mois, je tombe sur Sivan.
C'est 7 mois et 40 jours de déluge.
Comment?
7 mois et 40 jours de déluge.
Oui, c'est ça. 7 mois plus 40 jours, oui.
Un mois, c'est 30 jours.
Ah, ça a aussi un problème. Quelle est la longueur des mois? Il y a tout un débat avec le Ramban, avec également les manuscrits de la Mer Morte. Ils ont un calendrier à eux. D'accord? Bon. Oui. Alors maintenant, je voudrais passer, s'il vous plaît, au verset Hé. Vamaï mayu alors vechassor. Et l'eau alla en diminuant. Adachodesh à Assyri, jusqu'au dixième mois. Bah, Assyri, bechad la chodesh, niru, raché, harim. Lors du dixième mois, le premier du mois, sont apparus les cimes des montagnes. Ah. C'est quoi le dixième mois, là, maintenant?
C'est
10 mois après Sivan. 10 mois
après
Sivan? Ou après Kislev? Regardez Rashi. Rashi dit Zehav. C'est le mois de Av. Pourquoi? Shiwa Siri le Marcheshvan, Shiitri la Geshem. Parce qu'il est le dixième mois à partir de Marcheshvan où a commencé la pluie. Il se moque du monde, là, Rashi. C'est-à-dire, au début, on compte à partir de Tishrei. Dans la deuxième fois, on compte à partir de Kislev. La troisième fois, à partir de Cheshvan. Incroyable, un truc pareil. Dans le même récit. Ça veut dire d'abord qu'il y a tout un désordre dans le temps, au moment du déluge. Il y a un midrash qui vous dit que les luminaires n'ont pas fonctionné au temps du déluge. C'est-à-dire que le système solaire était complètement bouleversé. Bon. Mais... bon, alors, ça se passe donc de manière un peu bizarre. Et puis après, on arrive au verset Yud Gimel. Vaï be'achat v'shesh me'ot shana. Ce fut en la 601e année. 601e année de quoi? De la vie de Noach, vous dites, d'accord? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Noach a quel âge? 601 ans. D'accord? Alors pourquoi ne pas dire les chayés noirs? On va voir. Barishon bechad la chodesh, lors du premier jour du premier mois, harvu amaim ala aretz, l'eau a été éliminée de la face de la terre, vayasar noir et pirse ateva vayar vine harvu pene adama, noir ouvre le couvercle de la boîte, il voit que la terre est délavée, ou va chodesh hacheni, et lors du deuxième mois, de shiva ve'isrim yom la chodesh, yavsha haaretz, le 27e jour du mois, la terre a séché. Alors, c'est quoi? Barishon, lors du premier mois, regardez Rashi, sur dans le verset Yud Gimel, les Rabbi Eliezer ou Tishrei. Selon Rabbi Eliezer, c'est Tishrei, et selon Rabbi Yoshua, c'est Nissan. Donc, on revient au premier compte. C'est-à-dire, on avait commencé par Tishrei, maintenant on revient à Tishrei, pour dire le premier mois. Et donc, le deuxième mois, c'est quoi? C'est Marcheshvan. Donc, si le déluge a commencé un 17 Cheshvan et qu'il a cessé un 27 Cheshvan, combien de temps a duré le déluge? Un an et 10 jours. N'est-ce pas? Un an et 10 jours. Pourquoi 10 jours de différence? Rashi nous dit parce que c'est la différence qu'il y a entre l'année lunaire et l'année solaire. En fait, il y a eu 365 jours seulement, mais comme les mois sont des mois lunaires, ça vous fait 10 jours ou 11 jours de différence entre les deux. D'accord? C'est ce que dit Rashi. Bon, je veux bien croire Rashi, mais là j'ai un petit problème. Regardons dans le chapitre Tet, au verset... au chapitre Tet, au verset Kafret. Quoi?
Oui, c'est possible donc que l'année qu'on a, peut-être qu'il y a passé beaucoup plus de temps pendant le déluge.
Peut-être, mais ça m'empêche d'expliquer ce que je vais expliquer. Donc, passons au chapitre Tet, au verset Kafret. Vayehi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore?
Non, mais je vais juste prendre en Cheshvan, ça a commencé.
Le 17, oui. Ça, 17, après vous avez 40 jours de pluie. Après le 7 Sivan, enfin le 17 Sivan, ça, elle s'est posée. Le premier de Av, on a vu les cimes. Et le premier Tishri, la terre a été débarrassée de l'eau, mais elle était encore molle. Et le 17 Marcheshvan, le 27 Marcheshvan, la terre était sèche. D'accord? Bon. Alors, regardez maintenant au chapitre Tet, au verset Kafret. Vayhi Noach achara Mabul, 300 shana v'chamishim shana. Après le déluge, Noach a vécu 350 ans. Quel âge il avait au moment de la sortie de l'arche? 601 ans, vous dites, n'est-ce pas? Vous rajoutez 350, quel âge il a? 951. D'accord? 951 ans, c'est la vie de Noé. Regardez au verset Kaftet. Regardez au verset Kaftet. Vayehi kol yeme Noar, tshameot shana vachamishim shana vayamot. Et toute la vie de Noé était de 950 ans et il mourut. Ah, 950, c'est pas 951. Il y a une différence de combien? 1. D'accord? Il y a donc une année qui manque. Oui.
On dit à chaque fois, on dit c'est dans la 5e année, mais ça veut dire que la
599, par exemple, dire que cette année ne compte pas. Non, mais tu as deux manières de compter. Soit tu comptes dans l'année, soit après l'année, mais s'il y a 600 et après 601, donc il y a une année de différence. Surtout si tu vois ce qui s'est passé dans le déluge. Le déluge a rajouté une année. Et donc, il a 951 ans quand il meurt.
Il y a marqué au début
de la 600e. Oui, peut-être, c'est une manière de répondre. Mais on va voir qu'à mon avis, ça s'est passé tout à fait différemment. Regardez à nouveau dans le chapitre Chet. Chapitre Chet. Au verset Hé. C'est un verset que nous avons déjà vu. Chapitre Chet, verset Hé. Et c'est là que nous allons avoir une surprise. Vous aimez les surprises?
Oui.
Oui. D'accord. Regardez au chapitre Chet. Au chapitre Chet, verset Hé. Ve'amaim ayu alor vechassor. L'eau alla en diminuant. Adachodesh à Assyri jusqu'au dixième mois. Ba'asiri be'echad lachodesh. Lors du dixième mois au début du mois, Niru, Raché et Harim sont apparus les cimes des montagnes. Vayihi miketz arbaim yom. Et ce fut à la fin des 40 jours. Vayiftach Noach et chalon ateva asher asa. Et Noach a ouvert la fenêtre de la teva qu'il avait fait. C'est pas 40 jours. C'est déjà 300 jours au moins. Ça veut dire que Noach était dans la teva 40 jours et que le monde a connu le déluge pendant un an. Ça veut dire que c'était pas le même temps dans la teva et à l'extérieur de la teva. Hein? Oui, énormément. Ça veut dire que ce qu'on appelle le temps n'est pas une réalité objective, mais une réalité subjective. Si je demande à Noah combien de temps tu étais dans la Teva, il me répondra 40 jours. Si je demande au monde combien de temps a duré le déluge, il répondra un an. Ça veut dire qu'en fait, il a, de son point de vue, 950 ans. C'est pour ça que la Torah dit, et ce fut lors de la 600e année, la 601e année, et elle ne dit pas de la vie de Noé. Mais c'est la 601e année du monde à partir de la naissance de Noé. Mais Noé lui-même a toujours 600 ans, on lui a rajouté 40 jours. 40 jours, c'est pas une année. D'accord? Alors maintenant, ça suppose une sorte de relativité du temps. Ça voudrait dire peut-être que la Teva a été à une vitesse absolument vertigineuse, la vitesse de la lumière peut-être. D'accord? Hein? Mais dans ce cas-là, ça marche selon le principe du voyage de Langevin en physique. D'accord? Mais même si c'est pas comme ça, ça veut donc dire, ça vous explique aussi pourquoi est-ce que Moshe est capable de ne pas manger et de ne pas boire pendant 40 jours. Vous trouvez ça normal, vous?
Le temps est différent.
Il est dans un autre temps.
Il le vit comme combien de
Alors, ça, Moshe?
Oui.
Peut-être un jour. D'accord? Oui. Alors, comment est-ce qu'il a su le temps? Alors, les Rahim ont dit qu'il avait une pierre qui était brillante pendant la nuit et qui était mate pendant le jour. D'accord? Ça veut dire, comment? Oui, c'est un midrash. C'est dans, je crois, dans Maseret Sanhedrin, dans le 11e chapitre. D'accord? En tout cas, Ça veut dire qu'il y a ici une expérience de Noé, qui est une expérience de Torah, qui fait qu'il est en décalage par rapport à sa génération qui est victime de la nature.
Est-ce qu'il est encore sur Terre? Enfin, la Terre était.
Elle était sur l'eau.
Sur l'eau.
Sur l'eau, oui. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.
Chaim Banim.